Chapitre 12. On y verra que M. Jones continue son voyage, malgré le conseil de Partridge et ce qui lui arriva à cette occasion. Ils découvrirent alors une lumière à quelque distance, au grand plaisir de Jones et au grand effroi de Partridge, qui se croyait fermement ensorcelé et ne doutait pas que cette lumière ne fût un feu follet ou quelque chose de plus terrible encore. Mais combien ses craintes augmentèrent lorsqu'en approchant plus près de cette lumière ou de ces lumières, car on en apercevait plusieurs, ils entendirent un bruit confus de voix humaines, des chansons, des éclats de rire, des cris, le tout accompagné d'un autre bruit étrange qui semblait provenir de quelques instruments, mais qu'il eût été difficile d'appeler de la musique. À moins que pour entrer un peu dans l'opinion de Partridge, on ne l'appelât de la musique infernale. Il est impossible de concevoir un plus haut degré d'horreur que celui qui s'empara de Partridge en ce moment. La contagion même en avait gagné le postillon, qui avait écouté très attentivement tous ses discours. Il se joignit donc à lui pour prier Jones de retourner sur ses pas, disant qu'il croyait fermement ce que Partridge venait de dire, que quoique les chevaux semblassent marcher, ils n'avaient pas fait un pas en avant depuis une demi-heure au moins. Jones, bien qu'extrêmement contrarié, ne put s'empêcher de sourire de la peur de ces pauvres gens. « Soit que nous avancions vers les lumières, dit-il, soit que les lumières se soient avancées vers nous, car nous n'en sommes plus qu'à une très petite distance, comment l'un ou l'autre pouvez-vous avoir peur d'une troupe de gens qui ne paraissent occupés qu'à se divertir ?»« Qu'à se divertir, monsieur, s'écria Partridge. Qui pourrait se divertir à cette heure de la nuit, dans un tel lieu et par un tel temps ? Ce ne peut être que des esprits ou des sorciers, ou quelques démons, c'est certain. Qu'ils soient ce qu'ils voudront, dit Jones, je suis déterminé à aller vers eux et à leur demander le chemin de Coventry. Toutes les sorcières, Partridge, ne sont pas d'aussi méchantes furies que la dernière que nous avons eu le malheur de rencontrer. Oh, Seigneur, monsieur, s'écria Partridge, on ne peut pas savoir de quelle humeur elles seront. Le mieux, sans doute, est d'être toujours poli avec elles. Mais quoi, si nous allions trouver pis que les sorcières, des diables en personne. Je vous prie, monsieur, soyez prudent. Je vous en prie, monsieur, soyez-le. Si vous aviez lu comme moi ce qui a été écrit de terrible sur cette matière, vous ne vous piqueriez pas d'une hardiesse aussi folle. Dieu sait où nous avons déjà été et où nous allons. Car sûrement on n'a jamais vu sur la terre une pareille obscurité, et je doute qu'il puisse faire plus noir dans l'autre monde. Malgré tous ses avis de se tenir sur ses gardes, Jones avançait le plus vite qu'il pouvait, et le pauvre Partridge était obligé de suivre, car, quoiqu'il osât à peine avancer, il osait encore moins rester seul derrière. Enfin, ils arrivèrent au lieu d'où le bruit et la lumière partaient. Jones aperçut bientôt que ce n'était qu'une grange, où un grand nombre d'hommes et de femmes étaient assemblés et se divertissaient le plus gaiement du monde. Jones ne parut pas plus tôt devant la grande porte de la grange qui était ouverte qu'une voix masculine et fort rude, sortant de l'intérieur, demanda qui était là. Jones répondit doucement « Ami » et s'informa aussitôt du chemin qui conduisait à Coventry. « Si vous êtes un ami, s'écria une autre voix du fond de la grange, vous feriez mieux de descendre de cheval jusqu'à ce que l'orage soit passé. » Il était alors en effet plus violent qu'il n'avait été. « Vous serez très bien reçus, vous et votre cheval, car il y a de la place pour lui au bout de la grange. »« Vous êtes très obligeant, » répondit Jones. « J'accepterai vos offres pour quelques minutes, pendant que la pluie continuera. Mais j'ai encore avec moi deux personnes qui seront fort aises d'obtenir la même faveur. » Elle fut accordée de meilleur cœur qu'elle ne fut acceptée. Car Partridge eût préféré se soumettre à la plus cruelle inclémence du temps que de se fier à la clémence de ceux qu'il prenait pour des esprits, et le pauvre postillon était alors tourmenté par les mêmes craintes. Mais tous deux furent obligés de suivre l'exemple de Jones, l'un parce qu'il n'osait pas quitter son cheval, l'autre parce qu'il ne craignait rien tant que de rester seul. Si cette histoire avait été écrite dans un temps de superstition, j'aurais eu trop de pitié du lecteur pour l'avoir laissé si longtemps en suspens, et l'avoir en quelque sorte amené jusqu'au point de craindre que Belzébuth ou Satan n'apparussent au moment même en personne, avec toute la troupe infernale. Et comme cette doctrine est tombée de nos jours dans le plus grand discrédit, et n'a plus que peu ou point de sectateurs, je ne me suis pas donné beaucoup de peine pour produire de l'effet par des terreurs de cette nature. S'il faut dire la vérité, les directeurs de théâtre se sont depuis longtemps approprié tout l'appareil des régions infernales. Ils paraissent même s'en être dégoûtés depuis peu. Et l'avoir mis au rebut, comme ne pouvant servir qu'à émouvoir la galerie d'en haut, place où bien peu de nos lecteurs vont probablement s'asseoir. Quoique nous n'ayons aucun lieu de croire que nous ayons inspiré une grande terreur à cet égard, nous avons cependant quelques raisons d'appréhender qu'il ne s'élève ici dans l'âme de nos lecteurs une autre sorte de crainte que nous ne voudrions pas volontairement leur causer. Je veux dire celle que nous ayons le projet de lui faire faire un voyage dans le pays de la féerie et d'introduire dans notre histoire une espèce d'être à laquelle personne ne fut jamais assez enfant pour croire, quoique beaucoup de gens aient été assez fous pour passer leur temps à écrire ou à lire leurs aventures. Pour prévenir de semblables soupçons, si préjudiciables à la confiance que doit inspirer un historien qui fait profession de ne tirer ses matériaux que de la nature, nous ne tarderons donc pas à instruire le lecteur de ce qu'étaient ces gens dont l'apparition soudaine avait frappé Pantridge d'une si grande terreur, presque fait mourir d'effroi le postillon et un peu surpris Jones lui-même. Les gens, donc, qui étaient assemblés dans cette grange n'étaient autres qu'une compagnie d'Égyptiens ou, comme on les appelle vulgairement, de bohémiens, occupés à célébrer le mariage d'un de leurs camarades. Il est impossible de concevoir une réunion de gens plus heureux qu'ils ne paraissaient l'être. La gaieté la plus vive animait tous les visages et leur assemblée n'était pas totalement dénuée d'ordre et de décence. Peut-être même en avait-elle plus que n'en a ordinairement un bal villageois. Car ces gens-ci sont soumis à un gouvernement régulier et à des lois qu'ils ont faites eux-mêmes, et obéissent tous à un magistrat suprême qu'ils appellent leur roi. On ne pouvait pas non plus voir une plus grande abondance que celle qui régnait dans cette grange. On n'y voyait ni délicatesse ni élégance, et l'appétit des convives n'en avait pas besoin. Mais il y avait une bonne provision de jambon, de poulet et de mouton, auxquels chacun des convives faisait lui-même une meilleure sauce que n'aurait pu le faire le meilleur et le mieux payé de tous les cuisiniers français. Virgile ne nous peint pas aîné plus étonné dans le temple de Junon. Dum stupet obtuque eret defixus in uno. Stupéfait et l'œil fixe, il paraît immobile. Que notre héros ne l'était de tout ce qu'il voyait dans cette grange. Tandis qu'il regardait autour de lui avec étonnement, un personnage vénérable l'aborda, en lui faisant beaucoup de salutations amicales, et trop franches pour que l'on puisse les appeler polis. Ce n'était autre que le roi des bohémiens lui-même. Il était très peu distingué de ses sujets par l'habillement, et sa majesté n'avait aucun droit régalien pour soutenir sa dignité. Et cependant, s'il faut en croire M. Jones, il y avait dans son air quelque chose qui annonçait l'autorité et inspirait à ceux qui le voyaient une idée de crainte et de respect. Tout cela n'était peut-être que dans l'imagination de Jones, mais peut-être est-il vrai que ces sortes d'idées se forment de celles du pouvoir, et en sont presque inséparables. Il y avait dans la physionomie ouverte et les manières polies de Jones quelque chose qui, joint à beaucoup d'agréments dans toute sa personne, lui servait de grande recommandation lorsqu'on le voyait pour la première fois. Cette impression favorable fut peut-être encore un peu augmentée par le profond respect qu'il témoigna au roi des bohémiens dès qu'il fut instruit de sa dignité, respect auquel sa majesté bohémienne fut d'autant plus sensible qu'elle n'était accoutumée à recevoir un semblable hommage de ses propres sujets. Le roi fit aussitôt dresser une table pour Jones et ordonna qu'on la couvrît de ce qu'il y avait de plus délicat dans toutes les provisions. Sa majesté s'étant ensuite placée à la droite de notre héros, lui tint le discours suivant. « Je ne doute pas, monsieur, que vous n'ayez souvent vu quelques-uns de mes sujets qui forment ce que vous appelez des bandes de bohémiens et qui courent de tous côtés. Mais vous ne vous imaginiez pas, j'en suis sûr, que nous fussions un corps aussi considérable que nous le sommes réellement. Et peut-être serez-vous encore plus étonné quand vous apprendrez que les bohémiens ont une aussi bonne constitution et un aussi bon gouvernement qu'il y en ait sur la surface de la terre. J'ai, comme je vous le dis, l'honneur d'être leur roi, et nul monarque ne peut se vanter d'avoir des sujets plus obéissants ni plus affectionnés. Je ne peux dire jusqu'à quel point je mérite leur amitié, mais ce que je peux dire, c'est que je ne m'occupe jamais que de leur faire du bien. Je ne dis pas cela pour me vanter, car comment pourrais-je faire autrement que de m'occuper du bonheur de ces pauvres gens qui courent çà et là tout le jour et ne manquent jamais de m'apporter la meilleure partie de ce qu'ils gagnent. Ils m'aiment et m'honorent donc, parce que je les aime et prends soin d'eux. Voilà tout, je n'en connais pas d'autre raison. Il y a 1000 ou 2000 ans environ, je ne peux dire au juste, attendu que je ne sais ni lire ni écrire, qu'il y eut ce que vous appelez une grande révolution parmi les bohémiens. Car il y avait dans ces temps-là des seigneurs bohémiens, et ces seigneurs se disputaient toujours les uns les autres pour leur rang. Mais le roi des bohémiens abolit tous leurs privilèges et rendit tous ses sujets égaux, et depuis ce temps ils ont bien vécu ensemble, car ils ne pensent pas à être rois. Et peuvent-ils être mieux que comme ils sont? Car je vous assure que c'est une chose très embarrassante que d'être roi et de toujours rendre la justice. J'ai souvent désiré être un simple bohémien, quand j'ai été forcé de punir mon meilleur ami et mon parent. Car quoique nous ne condamnions jamais à mort, nos punitions sont très sévères. Elles obligent les bohémiens à avoir honte d'eux-mêmes, et c'est une punition bien terrible. Je ne crois pas avoir connu un bohémien ainsi puni qui se soit rendu coupable par la suite. Le roi continua son discours en témoignant sa surprise qu'il n'y eut pas dans les autres gouvernements une punition telle que la honte. Jones l'assura au contraire qu'il y avait un grand nombre de crimes pour lesquels la honte était infligée par les lois anglaises et que dans le fait elle était la conséquence de toutes les punitions. Cela est étrange, dit le roi, car je connais beaucoup les Anglais et j'en ai beaucoup entendu parler, quoique je ne vive point parmi eux. Et j'ai souvent ouï dire que la honte était la cause ainsi que la conséquence de beaucoup de vos récompenses. Vos récompenses et vos punitions sont donc la même chose ? Tandis que Sa Majesté conversait ainsi avec Jones, un tumulte s'éleva tout à coup dans la grange, et probablement à cette occasion-ci. La courtoisie de ces gens avait peu à peu dissipé toutes les craintes de Partridge, et il avait consenti non seulement à manger abondamment de leurs provisions, mais encore à goûter de leur liqueur, ce qui le guérit bientôt entièrement de sa peur, et y substitua des sensations beaucoup plus agréables. Une jeune bohémienne, plus remarquable par son esprit que par sa beauté, avait attiré cet honnête garçon dans un coin, sous prétexte de lui dire sa bonne aventure. Comme ils étaient seuls ensemble, soit que ce fût l'effet des liqueurs fortes, qui ne sont jamais plus promptes à enflammer les désirs qu'après une fatigue modérée, soit que la belle bohémienne eût entièrement mis de côté la modestie et la décence de son sexe, et eût tenté le jeune Partridge par des sollicitations trop positives, ils furent découverts dans une situation très inconvenante par le mari de la bohémienne, qui, par jalousie probablement, n'avait cessé de tenir l'œil sur sa femme et l'avait épiée jusqu'à l'endroit où il la trouva dans les bras de son galant. À la grande confusion de Jones, Partridge fut conduit devant le roi, qui écouta l'accusation et la défense du coupable. Cette dernière était misérable, il faut en convenir, car le pauvre garçon était confondu par l'évidence qui déposait contre lui, et avait très peu de choses à dire pour sa justification. Sa Majesté, s'adressant alors à Jones, lui dit « Monsieur, vous avez entendu ce qu'on vient de dire. Quelle punition croyez-vous que votre domestique mérite ?» Jones répondit qu'il était fâché de ce qui était arrivé, et que Partridge ferait au mari toutes les réparations qui étaient en son pouvoir. Il dit qu'il n'avait en ce moment que très peu d'argent sur lui, et mettant la main dans sa poche, il offrit une guinée à la partie plaignante, ce que le mari refusa, en disant qu'il espérait que monsieur ne pouvait penser à lui en donner moins de 5. Cette somme, après quelques débats, fut réduite aux 2/5, et Jones, après avoir stipulé le pardon absolu de Partridge et de la coupable, allait payer les 2 guinées quand Sa Majesté, lui retenant la main, s'adressa au témoin et lui demanda dans quel temps il avait découvert les criminels. À quoi il répondit que le mari l'avait prié de surveiller les actions de sa femme depuis le moment où elle avait parlé à l'étranger et qu'il ne l'avait pas perdu de vue jusqu'à ce que le crime eût été commis. Le roi demanda alors si le mari était resté avec lui tout le temps dans le lieu où il s'était caché. Le témoin ayant répondu affirmativement, Sa Majesté bohémienne s'adressa au mari dans les termes suivants. « Je suis fâché de voir qu'il existe un bohémien qui ait assez peu d'honneur pour vendre l'honneur de sa femme à prix d'argent. Si vous aviez eu de l'amour pour votre femme, vous auriez prévenu cela, et n'auriez pas tenté d'en faire une prostituée pour avoir le droit de divulguer sa honte. J'ordonne, en conséquence, que l'argent ne vous soit pas donné, car vous méritez plutôt une punition qu'une récompense. J'ordonne, en outre, qu'on vous appelle l'infâme bohémien, que vous portiez une paire de cornes sur le front pendant un mois, que votre femme soit appelée Catin et montrée au doigt pendant tout ce temps, car vous êtes un infâme bohémien, et elle n'est pas moins une infâme Catin. Les bohémiens procédèrent immédiatement à l'exécution de la sentence et laissèrent Jones et Partridge seuls avec Sa Majesté. Jones applaudit beaucoup à la justice de cette sentence. Le roi, se tournant alors vers lui, dit « Je crois que vous êtes surpris, car je suppose que vous avez très mauvaise opinion de mes sujets, et que vous les prenez tous pour des voleurs. « Je dois l'avouer, sire, dit Jones, je n'en ai pas entendu parler si favorablement qu'il semble le mériter. » « Je vous dirai, dit le roi, la différence qui existe entre vous et nous. Nous volons les Anglais, et les Anglais se volent les uns les autres. » Jones continua à vanter très sérieusement le bonheur d'un peuple qui vit sous les lois d'un pareil magistrat. En effet, leur bonheur semble avoir été si parfait que nous devons craindre que quelque avocat du pouvoir arbitraire ne vienne à citer par la suite celui de ce peuple, comme un exemple des grands avantages de ce gouvernement sur tous les autres. Nous consentons à accorder ici ce que peut-être on n'aurait pas attendu de nous, c'est que nulle forme limitée de gouvernement n'est capable de s'élever au même degré de perfection, ni de procurer à la société les mêmes avantages. Le genre humain n'a jamais été si heureux que quand la plus grande partie du monde alors connue était sous la domination d'un seul maître. Et cet état de bonheur dura sous le règne de 5 empereurs romains consécutifs. Ce fut le véritable temps de l'âge d'or, et le seul âge d'or qui ait eu quelque existence depuis l'expulsion du jardin d'Éden jusqu'à ce jour, excepté dans l'imagination ardente des poètes. Dans le fait, je ne connais qu'une objection solide contre la monarchie absolue. Le seul défaut de cette excellente constitution me paraît être la difficulté de trouver un homme en état de remplir la fonction de monarque absolu, car elle exige indispensablement 3 qualités très difficiles à trouver dans la nature des princes, si l'on en croit l'histoire. La première est un degré suffisant de modération pour se contenter de toute la puissance qu'il lui est possible d'avoir. La seconde, assez de sagesse pour sentir son bonheur. Et la troisième, assez de bonté pour jouir du bonheur des autres, lorsqu'il est non seulement compatible avec le sien, mais même lorsqu'il en est l'instrument. J'en conclus que s'il faut avouer qu'un monarque absolu, doué de toutes ses grandes et rares qualités, peut procurer le plus grand bonheur à la société, il faut aussi convenir que le pouvoir absolu, remis entre les mains d'un prince à qui toutes ses qualités manquent, doit probablement y causer le plus grand malheur. Enfin, notre religion nous fournit également l'idée des bénédictions ou des malédictions que peut produire le pouvoir absolu. Les peintures du paradis et de l'enfer nous en placent devant les yeux des images parfaitement fidèles. Car quoique le prince de ce dernier empire ne puisse avoir d'autre puissance que celle qu'il tient originairement du souverain tout-puissant qui règne dans le premier, il paraît clairement prouvé par l'Écriture que le pouvoir absolu est abandonné au diable dans le domaine infernal qui lui est assigné. C'est véritablement le seul pouvoir absolu qui, au terme de l'Écriture, puisse être dérivé du ciel. Si donc les différentes tyrannies qui pèsent sur la terre peuvent justifier qu'elles émanent d'une autorité divine, le droit de ceux qui les exercent dérive sans doute de la concession originaire faite au prince des ténèbres, et ces délégations subordonnées doivent en conséquence provenir immédiatement de celui dont elles portent si évidemment l'empreinte. Il faut en conclure que les exemples de tous les siècles, nous montrant que les âmes en général ne désirent le pouvoir que pour faire le mal, et quand ils l'ont une fois obtenu, ne s'en servent pas à un autre usage, ce serait manquer tout à fait de prudence que de hasarder un changement, dans lequel nos espérances seraient faiblement soutenues par 2 ou 3 exceptions à 1000 exemples trop faits pour nous alarmer. il sera beaucoup plus sage, en ce cas, de se soumettre à un petit nombre d'inconvénients, résultant de la surdité impassible des lois, que de vouloir y remédier en portant ses plaintes à l'oreille toujours ouverte d'un tyran passionné. L'exemple des Bohémiens, quoiqu'ils puissent avoir été longtemps heureux sous cette forme de gouvernement, ne peut être ici d'aucune autorité, puisque nous devons nous rappeler le point très essentiel par lequel ils diffèrent de tous les autres peuples, et auquel ils doivent peut-être entièrement leur bonheur, consistant en ce qu'ils n'ont point parmi eux de fausses idées de l'honneur, et qu'ils regardent la honte comme la punition la plus cruelle qu'on puisse infliger.